Chers amis auditeurs de Magnificat, une dernière émission avant de vous proposer quelques rediffusions de nos émissions phares de l'année et de vous retrouver début septembre. Alors, vous savez que l'association Marie de Nazareth est une association qui a cœur d'évangéliser. Nous avons conçu un livret missionnaire de 16 pages afin d'aider ceux qui cherchent le Christ à se poser de vraies questions. Vous pouvez vous procurer ce livret sur notre site internet mariedenazareth.com dans l'onglet librairie. Vous pouvez en commander autant que vous le souhaitez. Nous vous proposons de régler juste un minimum de frais de port. Ainsi, vous aussi, vous pourrez évangéliser cet été votre famille, vos amis, vos voisins de plage et le proposer ensuite à votre curé ou à votre communauté. La foi chrétienne est vraie, il y a mille raisons d'y croire et rien ne peut lui être comparé. Il est possible de savoir que Dieu existe et de connaître qu'il est en vérité. Découvrez les mille raisons de croire permettant d'affirmer que ce christianisme est vrai. Par exemple, par la sublimité de la parole du Christ, sa vie extraordinaire, les prophéties qui l'ont annoncée, la force et la fiabilité des évangiles, le témoignage des apôtres, l'existence de milliers de saints, de témoignages, de conversions et de rencontres avec le Christ, les apparitions, les interventions de la Vierge Marie, des multitudes de miracles surprenants, des guérisons inexplicables, des mystiques visionnaires incomparables et quantité d'histoires providentielles étonnantes. Cette vérité du christianisme est une très bonne nouvelle, car les promesses éternelles du Christ sont magnifiques. Vous verrez, il n'y a pas de motif raisonnable pour refuser le christianisme. Et vous pourrez, avec nous, en distribuant ce livret, participer activement au projet des 1000 raisons de croire. Alors, nous terminons aujourd'hui notre cycle sur les stigmates. Et alors, je voudrais remercier Stéphane, merci, qui, à la technique, m'a trouvé la définition du mot stigmate. Alors, emprunté au latin stigma, stigmatis, lui-même emprunté au grec ancien, qui veut dire piqûre, marque au fer rouge. Voilà, on dit donc un stigmate. Merci beaucoup, c'est une cicatrice qui laisse une plaie comme nous le disions l'autre jour. Alors, nous allons donc continuer à parler des stigmates. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons de la bilocation, autre phénomène bien étonnant. Alors, Patrick Sbalchero est fidèle à nos côtés, une dernière fois avant les vacances.
Merci.
Merci beaucoup. J'ai des tas d'idées d'émission, Patrick, sur les miracles, l'histoire de hauts lieux religieux. Vous avez écrit sur le Mont Saint-Michel. Ça, c'est très intéressant. Alors, si vous le voulez bien, nous pourrons organiser de nouvelles émissions cette année. Alors, nous évoquons aujourd'hui une autre forme de stigmate, les stigmates épigraphiques. Alors, de nouveau, qu'est-ce que c'est ?
Alors, là, nous entrons dans un domaine un peu plus inconnu, on va dire, même du grand public et même d'ailleurs, de notre clergé. Oui. Il existe donc des stigmates imitatifs, imitant les plaies de la Passion du Christ, et les stigmates qu'on peut appeler aussi figuratif.
Oui.
Voilà. Alors là, c'est très particulier. C'est la chose suivante. Apparaît sur le corps d'un sujet, pareil, femme, homme. Généralement, on n'a pas de cas d'enfant, sur femme ou homme. Eh bien, sur la peau, sur la surface de la peau, des dessins, des signes.
Des dessins.
Des dessins, des lettres.
Oui.
Des lettres. Tout un tas de symboles ou d'objets religieux, comme ça peut être des chapelets, des croix, et même de courtes prières dans des langages anciens, ce qui est arrivé.
En araméen, par exemple.
Voilà, sur deux coups, évidemment, la page en question étant le corps humain, on ne peut pas avoir de grand développement, mais voilà, c'est ce qu'on appelle des stigmates figuratifs. Alors, c'est tout à fait étonnant. C'est encore plus rare que les stigmates imitatifs. Mais ce sont des choses dont, on possède des témoignages très, très forts, en particulier pour quelques cas contemporains.
Mais ça ressemble à quoi ? C'est comme un tatouage ? C'est couleur bleue ?
C'est une forme de boursouflure, d'inscription vraiment dans la peau, mais sans explication, avec un soulèvement de l'épiderme,
oui.
Évidemment, sans action, sans intervention humaine.
Oui,
de l'air, ça peut être aussi également, par exemple, un calice qui se dessine, une hostie, mmh. une croix, des petits anges également. Alors, tout un, voilà, une panoplie hein, de choses religieuses. Alors, c'est évidemment extrêmement frappant et très déconcertant, y compris pour le sujet lui-même, parce que, bon, voilà, je ne suis plus maître de mon corps, quoi,
Bien
quelque
sûr.
Part. Quoi.
Et vous en avez déjà vu ? Alors, en vrai ?
En vrai, des figuratifs ?
Oui.
Non. Moi, j'ai vu des imitatifs, mais je n'ai pas vu de figuratifs. J'ai vu de nombreuses photos. Et bon, avec un petit peu de temps et de recherche, vous trouvez sur Internet, pour certains cas sérieux, des photos, des documents. Et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant.
Alors, c'est de quelle couleur ? Parce que vous dites, c'est écrit.
Oui.
Mais c'est écrit comme un tatouage ?
Oui, alors, vous savez, là, comment dire ? Oui, comme une sorte de tatouage, si vous voulez. Comme une sorte de tatouage. En fait, avec les nuances de la peau, vous arrivez à déchiffrer de manière très facilement. D'ailleurs, on voit, les photos montrent des choses vraiment qui ne sont pas compliquées à observer. Hein. Alors, c'est très, évidemment, très déconcertant, très inexplicable. Pourquoi est-ce que le ciel accorde des grâces comme celle-ci ? Ce sont des grâces, en général, durables.
Oui.
Hein, ça n'apparaît pas un soir, ça disparaît le lendemain. On a des choses qui se reproduisent de semaine en semaine, parfois sur de nombreuses années, comme cela.
Et sur n'importe quelle partie du corps ?
Alors,
ou les bras ?
Non. En général, sur la poitrine.
Oui,
sur la poitrine, ça peut être les mains, les bras. Les mains, vous savez, depuis là, par contre, de nombreux siècles, on a parlé de l'anneau mystique. Vous voyez,
oui.
Le phénomène de l'anneau mystique qui apparaissait, ou qui n'apparaissait que pour certaines personnes, ce qui est vrai. Et vous avez les bras, donc les jambes également. Les jambes sont touchées. C'est très curieux, c'est très étrange. Mmh. C'est très étrange, mais néanmoins réel.
D'accord. Alors moi, j'avais entendu parler de cela, mais comme étant quelque chose de maléfique.
Alors, il y a eu des cas, effectivement, de stigmates figuratifs qui ont été, finalement, peut cataloguer comme des tromperies diaboliques. Oui,
ah
oui, cela a existé.
Oui. Comme pour les apparitions.
Ah, mais comme pour tout phénomène mystique. Comme pour tout phénomène mystique.
Vous voulez dire, nous parlions des stigmates la dernière fois. Pareil pour les stigmates maléfiques.
Alors,
surtout
pour les invisibles, parce que là, ensuite, on juge l'arbre à ses fruits.
Oui. Hein,
on juge l'arbre à ses fruits. Et une personne, voilà, qui allègue des douleurs aux pieds, aux mains, etc., mais qui se comporterait très mal, bon, on peut émettre là aussi, au plan spirituel, bien sûr, un doute quand même. Un doute. Là, c'est le cas. Alors, ce sont des cas très exceptionnels. Vraiment
on
très
connaît
exceptionnels.
Des saints qui ont eu...
Oui. Alors, déjà, au Moyen-Âge, vous avez un certain nombre de saintes et de saints, en particulier de saintes, qui ont porté donc cet fameux stigmate de l'anneau mystique au doigt, qui peut être considéré comme, comme un stigmate figuratif, finalement. Hein. Ouais. On voyait, il y a eu d'ailleurs des reproductions artistiques, très nettement, la trace d'un anneau.
Oui.
Alors, la personne dit, voilà, la Vierge ou Jésus m'a remis cet anneau mystique de manière incroyable. Et il s'inscrit donc sur la peau du sujet, la trace
sur le doigt.
Alors, les gens, beaucoup ont dit, mais non, mais voyez, là, on est dans le domaine de la suggestion psychique pure et dure.
Oui.
Mais le problème, c'est que la suggestion pure et dure, personne n'est jamais parvenu à reproduire le moindre stigmate, le moindre véritable stigmate.
Oui, parce qu'il y a eu des fraudes.
Il y a eu des fraudes. Et puis, vous pouvez reproduire éventuellement une douleur à la main, une rougeur, un dérangement cutané, voyez-vous. Mais une main transversée de part en part avec une suggestion que je n'ai jamais vue. Et puis, d'autre part, une plaie qui se referme toute seule à certaines périodes du calendrier liturgique.
Oui.
Là, vraiment, on entre dans une autre catégorie, quoi.
Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Natuzza Evolo ?
En deux mots. Alors, c'est une femme très modeste, très humble, qui voit le jour en Calabre, dans cette partie du sud de l'Italie, très pauvre. Hein,
encore,
elle voit le jour en 1924. Elle est contemporaine, d'ailleurs, du Padre Pio. Hein.
Ah oui, et ils se sont connus ?
À ma connaissance, non. Mais à ma connaissance seulement. C'est une excellente question. À ma connaissance, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et qui, à partir de l'adolescence, et vit un grand nombre de phénomènes mystiques inexpliqués qui déconcertent totalement son... qui la déconcertent d'ailleurs, elle, pour commencer. Alors, c'est d'un milieu, sa famille, très priant, très très pieux, très... mais sans aucun antécédent mystique, si j'ose dire. Elle est touchée par ça.
Elle a quel âge ?
Lorsqu'elle commence à avoir... Oh, elle a une douzaine d'années. Quand ça commence. Mais pas les stigmates. Hein. Les stigmates figuratifs et les stigmates d'ailleurs tout court viennent plus tard, beaucoup plus tard. Elle est d'abord touchée par des visions, un certain nombre de visions.
De la Vierge Marie.
De la Vierge, de Jésus, des saints, des anges. Ensuite, elle a des visions très nombreuses de défunts.
De défunts proches.
Et ou pas proche, ouais. Ou éloigné. Alors certains ont dit, oulala, oui, mais alors là, on est dans un truc, est-ce que c'est pas du spiritisme ou je sais pas quoi. Non, non, elle avait horreur de ça, et truc. Elle a eu, les, on pourrait dire, presque des visions des âmes du purgatoire, en fait. Vous voyez. Et les fameux stigmates. Alors chez elle, c'est un phénomène vraiment particulier, Natuzza Evolo, c'est une femme qui est une laïque, hein, dans le cadre rural, voilà, elle prie sans arrêt, hein, au travail, de jour comme de nuit, elle prie, etc.
Attendez, vous dites au travail, ça veut dire qu'elle avait une vie normale.
Oui, elle avait une vie normale. Elle avait une vie normale jusqu'à la maturité, disons, parce que ensuite, bon, elle est devenue quand même, elle souffrait beaucoup et elle restait le plus souvent quand même dans sa maison, hein, où elle recevait d'ailleurs un certain nombre de personnes, de visiteurs, bien sûr.
Oui, parce que j'imagine que les gens ont voulu la rencontrer.
Ah ben, les gens, le clergé, les autorités ecclésiastiques, enfin beaucoup de gens, beaucoup de gens l'ont rencontré. J'ai connu des gens qui l'ont rencontré.
Ah, bon,
oui. Et c'était un cas absolument incroyable, puisqu'elle est en voie de béatification. Enfin, le procès a été ouvert en 2019, hein, je crois. Donc, vous voyez, hein, quelqu'un de très accepté, avec une spiritualité mariale notamment, mais très très forte. Et alors elle avait donc les plaies aux mains, aux pieds, etc., aux flancs, et elle avait donc des stigmates figuratifs, mais elle avait encore une spécialité, si j'ose dire, c'est bien, elle saignait beaucoup lorsque les stigmates apparaissaient, même les dessins, les anges, etc., qui apparaissaient sur sa peau. On a fait l'expérience suivante de multiples fois, on recueillait le sang avec l'aide d'un tissu, et le sang donc déposé sur le tissu prenait lui-même l'aspect d'objet ou de lettre religieuse.
Ah oui.
Ouais. Et on a des prêtres qui ont vu, qui ont témoigné par écrit de ce phénomène, qui n'est pas unique, hein, qui a été recensé pendant des années.
Mais ça veut dire qu'on les a gardés.
On les a gardés, tout à fait. On les a gardés, les autorités épiscopales en possèdent. Tout à fait.
C'est incroyable.
Ah oui, oui.
Et elle est décédée quand ?
Elle est décédée en 2009.
Oui, c'est
elle est décédée en 2009, donc c'est récent, c'est vraiment une contemporaine. Et dix ans après, eh bien, on a ouvert son procès, ce qui est relativement court. Mais elle était vraiment considérée, non pas par ses phénomènes extraordinaires, mais comme une personne sainte, elle est morte en odeur de sainteté, si vous voulez, vraiment une personne d'une humilité, d'une foi incroyable, quoi. Voilà. Et donc, par exemple, elle est vraiment, c'est l'une des mystiques quand même italiennes contemporaines incroyables. L'écoulement des sangs de ces stigmates on dure tout le carême, par exemple.
Oula.
Dure tout le carême et il cesse. Comme par enchantement,
le dimanche de Pâques.
C'est prodigieux quand même.
Oui. C'est vraiment étonnant. Bon, alors, chers amis auditeurs, si vous voulez en savoir davantage, donc il s'agissait de Natuzza Evolo. Alors, nous allons faire une pause à présent, mais non musicale. Nous allons écouter une prière qui s'appelle « La prière pour vivre à fond la vie d'abandon » de sœur Yvonne Aimée de Malétroit, qui était supérieure du monastère des Augustines de Malétroit, dans le Morbihan, puis fondatrice et première supérieure générale de la Fédération des monastères d'Augustines hospitalières de la Miséricorde de Jésus.
Dieu nous demande une grande docilité d'esprit, une humilité vraie, un grand désir de l'aimer et de le faire aimer, un cœur simple et pur. En retour, Il nous donne son amour, le don des âmes, sa pureté. Pour cela, vivre à fond la vie d'abandon qui développera en nous la véritable union. Perte de notre volonté dans la volonté divine. La vie d'abandon facilite la sanctification du moment présent, laisse tomber, à mesure qu'elle se présente, les révoltes de la nature, retour sur soi, sur le passé, préoccupation pour l'avenir, plainte, raisonnement, tristesse, jalousie, envie, etc. La vie d'abandon facilite le parfait renoncement qui donne la paix, la joie, une sérénité inaltérable. Facilite l'oubli de soi, empêche de s'analyser et de philosopher sur les événements de notre vie. Tout ce qu'il me donne, je le redonne aux âmes. Tout ce que les âmes me donnent, je lui redonne à lui. Je suis riche parce que je ne garde rien pour moi. La vie d'abandon développe la foi, l'espérance, la charité, la ferveur. On prend l'habitude de penser, d'agir, de souffrir sous l'influence de la vérité. Ainsi soit-il.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, nous avons écouté cette prière écrite par Mère Yvonne Aimée de Malétroit, connue aussi pour sa bilocation. Bilocation, ubiquité, être à deux endroits en même temps, ça doit être génial. J'en rêve comme maman. Qui a vécu cela?
Ah, il y a différentes saintes et saints qui ont vécu ce phénomène de bilocation. Alors. Et pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, il y a des preuves, on peut dire,
oui. Hein,
des choses attestées, prouvées, mais bien circonstanciées, parfaitement circonstanciées.
Alors, qui donc?
Alors, si nous prenons par exemple par ordre chronologique, il y aurait tout d'abord saint Alphonse de Ligori,
oui.
Qui est un saint qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1774 et le pape de l'époque, Clément XIV, agonise. Alphonse est évêque dans un diocèse qui se situe à 200 km de distance en Italie. Mais on le retrouve, si j'ose dire, les témoins, parce qu'il y a des témoins, le retrouvent au pied du lit de l'agonisant du pape. Alors qu'il est bel et bien en train de marcher, de discuter, de se réunir à 200 km de là. Eh bien, les témoins sont formels, c'est bien la personne de saint Alphonse de Ligori qu'ils ont vue au pied, eh bien, du pape Clément XIV en train de mourir. Ça, c'est le premier cas. C'est, ça nous situe vraiment une bilocation, on va dire, presque classique, typique.
Oui. Alors, on sait pourquoi il s'est biloqué.
Pour assister, le pape qui mourait, qui éprouvait une sorte de remords parce que le pape Clément XIV avait supprimé la compagnie de Jésus pour un tas de motifs. Et il ne s'était pas remis de cet état de choses. Eh bien, le saint Alphonse, est venu en quelque sorte lui dire que Dieu...
Soyez en paix.
Voilà, exactement.
D'accord.
Exactement.
Donc il y a toujours une raison.
Toute
spirituelle.
Vraie bilocation comporte une raison.
D'accord.
Spirituelle. On pourrait dire presque une mission.
D'accord.
Sans cela, point d'interrogation. Deuxième cas, en 1878. Alors là, c'est Saint Jean Bosco.
Ah oui.
Saint Jean Bosco. Alors lui, Saint Jean Bosco est à Turin, dans le nord de l'Italie. Et le 14 octobre exactement, 1878, il guérit un enfant très malade dans le sud de la France. Or, les gens qui l'ont croisé dans cette partie méridionale de la France ne reconnaissent pas à l'époque Saint Jean Bosco, qui n'est pas très connu en France à l'époque. Il l'est déjà en Italie. Hein.
Mais c'est sous les mêmes traits, enfin.
Exactement les mêmes traits.
Oui, d'accord.
Exactement les mêmes traits. On voit là, les témoins ont décrit un ecclésiastique portant donc un habit, on ne sait pas très bien si c'est un évêque, un prêtre, etc., avec un sac, etc. Mais il est inconnu dans les paroisses aux alentours et tout. Et les parents de l'enfant ne le connaissent pas, etc. Et pourtant, il guérit. Le père qui est pieux, qui est un homme pieux, l'invite à partager un repas, etc. Et puis tout d'un coup, mystérieusement, il disparaît. Il disparaît, alors qu'il était situé dans son diocèse hein, de Turin.
Oui, mais alors, je vais me faire l'avocat du diable, puisqu'on ne l'a pas reconnu. Comment sait-on que c'est Don Bosco ?
Ah, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. On a fini quand même par le reconnaître, parce que le saint, avant de partir, a laissé des images en demandant de lui-même, en demandant de prier par la suite, évidemment, à la famille. Et puis
ah,
à l'autre. Et donc, ils se sont dit, bah, voilà peut-être quelqu'un qui est hautement recommandable.
Oui.
Et ils se sont adressés au clergé et à l'évêque local. Et ils ont fini par identifier le saint.
D'accord.
C'est incroyable
ah,
quand
oui,
même
oui.
comme histoire, mais c'est la vérité. Et la guérison de l'enfant a été attestée médicalement.
D'accord.
Médicalement, donc il n'y a pas de doute. Et puis, troisième cas, Mère Yvonne Eben Maletroit.
Oui.
Mère Yvonne Eben Maletroit. Alors là, dans des circonstances assez tragiques, puisqu'elle est arrêtée pour fait de résistance par la Gestapo en 1943. Elle est amenée à Paris, mais... on ne sait pas où, d'ailleurs elle a été en partie battue, enfin torturée par la Gestapo à ce moment-là. Le père Labutte, qui à l'époque est son conseiller spirituel, apprend la nouvelle, il part vraiment toute affaire cessante à Paris, avec sa maman d'ailleurs qui l'accompagne, pour essayer d'en savoir plus, pour retrouver quand même Mère Yvonne Aimée. Et puis voilà, il arrive dans le métro et puis il voit Mère Yvonne Aimée à côté de lui. Justement, c'est absolument incroyable. Enfin, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, Et là, elle lui dit avec insistance, prie pour moi, parce que sinon, ce soir, je vais te déporter en Allemagne. Elle le voit, je crois que c'est à la station d'Enfer Rochereau, de mémoire.
Oui.
Elle quitte la rame, elle sort du wagon, elle quitte. Et puis, il en perd. Il la perd de vue, comme elle s'était dématérialisée en quelque sorte.
Oui.
Enfin, en tout cas, il l'a perdu. Il est affolé, il ne sait pas quoi faire. Il se rend au couvent des Augustines de Paris. Et là, il explique son cas. Il occupe le soir, aux alentours de 21h, eh bien, la pièce, le bureau que Mère Yvonne Aimée occupe habituellement quand elle se rend à Paris pour les affaires de la congrégation. Et là, elle apparaît à nouveau. Elle est libérée. Elle était libérée par son ange gardien. Elle est libérée un peu à la manière de Saint-Pierre dans sa prison. Alors, c'est tout à fait incroyable, évidemment. Au début, il ne le veut pas le croire. Enfin,
oui,
c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, quand elle apparaît dans cette pièce, elle a elle-même un moment où elle ne sait plus, elle n'a pas l'air de connaître son identité. Elle ne sait plus où elle est. Et le père Labutte lui prend la main et elle dégage en disant « Ne me touchez pas, ne me touchez pas ».
Ah oui, donc c'est pas un hologramme, elle est vraiment là.
Complètement de trouble, hein. Elle se remet vite, hein, bien sûr. Et donc voilà, un exemple type de bilocation absolument inimaginable. Les portes étaient fermées, alors là comme dans les évangiles, hein, les portes étaient closes hein, du couvent, etc. Elle n'avait pas moyen humain de rentrer à l'intérieur.
Ouais.
Alors Mère Yvonne Aimée a collectionné les bilocations qui ont été recensées hein, de manière extrêmement sérieuse et on en compte plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Toutes sont datées, étaient vraiment circonstanciées, avec des témoins sur le lieu, en général à Maletroit, parmi les sœurs, etc., qui voient Mère Yvonne Aimée, situation d'assoupissement hein, ou de sommeil, et puis des témoins à droite, à gauche, à Paris, en province, à l'étranger même, qui la voient aussi, qui ne voit pas une image, c'est pas une projection mentale, c'est un être de chair et de sang.
Oui.
Donc vraiment une femme, voilà, à part entière, mais qui sont certains de la voir, de parler avec elle, d'avoir une interaction avec elle au même moment.
Alors là, vous nous avez parlé de trois personnes. Alors Mère Yvonne Aimée n'est pas encore sainte, mais peut-être un jour, mais tous ce sont des mystiques.
La plupart des cas, on peut parler de phénomènes mystiques. Chaque phénomène mystique, est accompagné d'autres phénomènes mystiques. Il est rare qu'une personne, par exemple, ne reçoive que les stigmates ou que ne soit que le charisme de bilocation. En général, il y a plusieurs phénomènes qui sont liés les uns aux autres.
Oui.
Vous voyez ? Il y a une cohérence tout à fait, cohérence évangélique,
oui.
Il y a une cohérence spirituelle. Et là, les bilocations sont certainement un signe, peut-être une preuve, eh bien, de ce que le corps glorieux ce qu'on appelle le corps glorieux, peut faire, en quelque sorte, ce à quoi nous pouvons aspirer dans la foi. Hein, le fameux corps glorieux, sans limitation de temps et d'espace. Vous voyez, déplacement suivant la volonté de Dieu de manière instantanée, en quelque sorte. Il n'y a plus de conditionnement terrestre. Voilà.
Oui. Effectivement, je n'avais pas pensé à ce corps glorieux, mais c'est effectivement,
une piste.
Alors, là, vous parliez d'un être de chair et de sang. Padre Pio apparaît à des aviateurs durant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, par contre, dans le ciel, immense, sous forme d'image. On peut parler de bilocation, là ?
À mon sens, non.
Non.
À mon sens, non. C'est un autre phénomène, ça. C'est une autre expérience visuelle.
Oui.
Quelle est la marque ? Alors, honnêtement, on peut appeler ça une vision. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes ont vu ou auraient vu la Vierge Marie.
Oui.
Et ça les aurait, de manière un peu analogue.
Oui,
vraiment une énorme vision dans le ciel.
Qui a arrêté les troupes.
Voilà. Ce sont des choses très, très exceptionnelles. On peut parler davantage, je pense, de vision que de bilocation. Vous voyez, la présence de l'être céleste, en l'occurrence la Vierge,
immense,
ou Padre Pio, ce n'était plus une personne humaine.
Oui.
Là, on était vraiment dans l'expérience de vision, visuelle, visionnaire. Je pense qu'il faut distinguer les deux.
D'accord, très bien. Bon, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Patrick.
Merci à vous.
Bon été, chers auditeurs. Je serai très heureuse de vous retrouver début septembre. Et puis, méditez bien, priez. Et nous sommes tous bien en communion de prière.
Merci.
Merci. Alléluia.